Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, je vous dis bonjour. Vous savez que la solution facile, si j'étais vraiment populiste, ben je commencerais l'émission en disant bonjour. Hi, c'est le sujet du jour. D'ailleurs, on a deux segments dans l'émission où on va en parler, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important. Mais moi, je tombe jamais dans la facilité. Donc, je commence pas cette émission en vous disant bonjour. Hi, mais je veux quand même vous parler du français et de son état au Québec. Pourquoi? Parce que, ben, on en parle beaucoup les dernières semaines. Il y a eu cet excellent dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, en fin de semaine, sur les francophones hors Québec et à quel point ils en arrachent partout ailleurs dans le plus meilleur pays du monde. Et puis, il y a eu aussi ce reportage hier sur le fait que même dans les écoles ici au Québec, les étudiants francophones, les élèves francophones se parlent beaucoup, 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 beaucoup en anglais entre eux. Bref, on est très préoccupé par ces questions-là au Québec, et avec raison. Alors, c'est pour ça que j'étais assez surprise, pour ne pas dire extrêmement déçue, ce matin, en ouvrant le journal de mes collègues, de la presse, et en apprenant sous la plume de Dominique Tardif qu'il y a une partie de l'équipe du Zoo Fest, hein, vous savez, c'est ce segment plus jeune, plus innovateur, plus déterreur de nouveaux talents du festival Juste pour rire. Donc, il y a une partie de l'équipe du Zoo Fest qui, évidemment, n'existe plus parce que, ben, Juste pour rire, on sait ce qui est arrivé. Donc, une partie de cette équipe-là qui va présenter du 12 au 21 juillet un nouveau festival. Et comment ça va s'appeler? Le Longueuil Comic Fest. Bon, au moins comique, ils l'ont écrit à la française. Tu sais, c'est QE, c'est pas comique, COMIC. Mais il y a une semaine ou deux, je vous parlais d'un festival qu'il y avait à Québec avec cette même structure de phrase-là. Fest à la fin, là, c'est anglais. Au Québec, en français, on met un festival de ci, le festival de la poutine, pas le Poutine Fest. On dit le festival de la musique, pas le Music Fest. Le festival de l'humour, pas le Humor Fest, pas le Laugh Fest. Si vous mettez le fest à la fin, là, c'est anglais ou allemand. Ça m'étonnerait qu'il y ait une grosse communauté germanophone à Longueuil qui se tape les cuisses en faisant un festival d'humour. Donc, on a simplement calqué, encore une fois, le nouveau nom d'un festival, d'un événement culturel calqué sur l'anglais. C'est pas grave, les amis. Ce n'est pas grave. Je suis pas en train de déchirer ma chemise, je suis pas grimpée dans les rideaux, puis je suis pas accrochée au plafonnier. Mais est-ce qu'on peut juste avoir un tout petit peu de préoccupation quand on crée un nouvel événement? De juste essayer au moins de donner une apparence générale, que c'est un tout petit peu l'air français. Cela dit, bienvenue à l'émission Bonjour et non pas Bonjour. Hi.
Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Ben, je vous l'avais dit, hein, je vous avais prévenu qu'on allait beaucoup parler de l'état de la langue aujourd'hui à l'émission. Et on commence avec Rémi Villemur qui est étudiant un doctorat en sociologie et qui va nous parler de ce fameux plan d'action ou peut-être on devrait dire le Action Plan Fest.
Oui, c'est ça, exactement.
De Jean-François Roberge.
En fait, on n'en sait pas grand-chose pour le moment. Tout ce que je sais, c'est que on dirait qu'on... Tu sais, c'est un homme très grand, hein, Jean-François Roberge. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu en personne. Il mesure 6 pieds, 255 pouces. Là. Ah. Et quand il fait la split, hein, parce qu'il faut faire la split quand on est dans le cabinet de ministre.
Oui, le grand écart, Rémi.
Le grand écart, exactement, quand on travaille à la CAQ entre... ben, le fédéralisme et le souverainisme, ben, quand on essaie de faire la split, le grand écart, on touche pas, on n'est pas capable de rejoindre la solution. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller là, puis là, puis la solution est là devant nous.
Elle est devant nous. Et comment s'appelle-t-elle, cette solution?
Ben, à mon avis, c'est l'implantation de la loi 101 au collégial.
Oui.
Si on veut régler la situation du français. En fait, il faudrait d'abord accepter qu'on ne sera jamais capable de la régler. Ça, c'est un exercice de lucidité.
Tu penses?
Non. Ouais. Oui, bien sûr que je le pense. Regarde, dans un Québec province ou dans un Québec pays, ou dans un Québec pays même, je te dirais que le français va toujours être en danger en Amérique. Ça, il faut le savoir, ça.
Oui, parce que Netflix, parce que...
Spotify.
Parce que
Fort Lauderdale.
Une langue minoritaire.
Exactement.
Après, même si on devient un pays, ça va quand même être un pays qui a une langue qui est minoritaire par rapport au reste du continent.
Exactement. Donc, la solution, c'est de se donner les meilleurs outils et les meilleurs moyens de faire face à cette condition. J'appelle ça une condition. Ça va toujours être ça. Fernand Dumont, qui est un grand sociologue québécois, il disait « Il faut avoir la passion des tâches inachevées. »
Ah,
moi, je dirais que les tâches sont inachevables aussi. Mm-hmm. On ne pourra jamais vraiment dire que le français est en sécurité. Donc, la solution, c'est celle-ci. Et c'est la souveraineté. Mais Jean-François Roberge, évidemment, il fait son possible. On le sait qu'il est souverainiste, mais il fait son possible. Et là, il a découvert le goût de la limousine. Le goût de la limousine, c'est difficile de se débarrasser
de ça.
C'est
tellement bien dit. Non, ça me fait penser à un titre de Annie Laferrière. Tu sais, c'est le goût de la...
Des mangues, là, je sais pas.
Le goût des mangues ou quelque chose comme ça, ou le goût de la grenade. Enfin, bon, bref. Mais donc, lui, c'est le goût de la limousine.
C'est le goût de la limousine. Tu sais, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles ces temps-ci, là, en lien avec le français. Et je lis certaines personnes qui sont dans la négation, là, littéralement.
Là. Le déni, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac, c'est ça. Les fédéralistes, les anglos,
et drôle de hasard, moi, je fais de l'insomnie dans la vie. Okay? Je ne sais pas si je t'ai déjà partagé ça. Je fais beaucoup, beaucoup d'insomnie. Et ce matin, j'en ai fait encore une autre fois. Donc, je me réveille à 3 heures du matin. Et moi, je suis un insomniaque d'expérience. Donc, je sais que je ne me rendormirai pas. Et je sais que ça ne sert à rien de lire des Astérix ou des Tintins. Je me rendormirai pas non plus.
Mais lis Émilie Nicolas, là tu vas te rendormir.
Hey, tabarnouche, c'est vrai, je la lis le soir, puis c'est comme ça que je réussis à m'endormir. Je vais faire ça le matin.
Okay.
Non, donc moi je lis du lourd. Ok,
je lis du lourd.
Ouais, je lis du lourd. Donc là je suis dans Céline ces temps-ci, pas Céline Dion.
Non.
Louis Ferdinand. Céline. Et le hasard a fait que je relisais ce matin le livre blanc de Camille Lorrain.
Oui, et le rapport avec Céline, il n'y en a pas?
Il n'y en a pas. Ben, j'avais fait le tour de Céline. Donc là, il était rendu 5 heures du matin.
Donc, t'es rendu dans Camille Lorrain.
Camille Lorrain, le livre blanc de Camille Lorrain. Et donc, je lisais ça. Et là, à un moment donné, j'ai mis ça de côté. Et là, je suis tombé sur un tweet. Inquiète-toi pas, je m'en vais quelque part. Là.
Oui.
Je suis tombé sur un tweet de André Pratt.
Ah, ben oui, non, mais je l'ai vu, ça, un tweet d'hier, là où il
fait non, les dents. Non, c'est ce matin.
Bon, en tout cas, j'ai fait de l'insomnie, moi aussi, pour d'autres raisons, donc peut-être. Il nie complètement, là, il minimise complètement les chiffres sur le Bonjour Hi.
Exactement. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait arrêter de parler de ça, de Bonjour Hi, parce que ça veut rien dire. Et là, il s'est permis, et c'est pour ça que je dis que c'était quand même un drôle de hasard, il s'est permis de dire la loi 101, là, qui date de 1977.
Ah oui, c'était pas ça le but. Ça n'était pas le but de chasser l'anglais de Montréal.
En fait, la loi 101, selon lui, c'était simplement de faire en sorte d'assurer l'idée que les gens puissent se faire servir en français.
Mais oui, c'est juste ça, la loi 101.
Mais là, il se trouve que moi, je venais de passer 2 heures dans le livre blanc de Camille Lorrain, qui est un livre blanc, pour les gens qui l'ignorent, là, c'est un document dans lequel on annonce les intentions d'un gouvernement. Et donc, moi, je venais de lire ça. Les intentions de la loi 101, l'esprit de la loi 101.
Donc, on y retourne. On retourne à la base, on retourne à l'essentiel. Ce qui est un exercice journalistique, un exercice historique, je dirais même un exercice sociologique extrêmement important quand on parle d'un dossier, de revenir à la base, à l'origine des choses. Et donc, que trouve-t-on? Il me semble que tu as un petit extrait pour
allons-y.
Moi.
Allons-y. Pour les gens qui ne savent pas qui est Camille Lorrain, qui n'ont jamais vu son visage ou qui ne l'ont jamais entendu, on va l'écouter quelques secondes.
Pour le peuple québécois, le dépôt de ce projet de loi, de ce projet de politique linguistique, marque que l'hiver vient de desserrer son étreinte et que sonne enfin l'heure du printemps de notre vie collective. À partir d'aujourd'hui, c'est l'époque de notre maturité qui commence.
Eh ben,
on n'est pas dans le troisième lien, puis les places en garderie.
C'est tout un orateur. Hein?
C'est poétique.
Mais j'aime l'image, et en effet, c'est poétique, et pourquoi pas? certains de nos politiciens auraient peut-être intérêt, en effet, à mettre un petit peu plus de d'émotion et de poésie dans leur truc, mais l'idée, c'est que, pour ceux qui, évidemment, n'ont pas connu cette époque-là, c'est que la raison pour laquelle Camille Lorrain parle de l'hiver des francophones, c'est que, tu te promets, naît sur Sainte-Catherine, toutes les devantures de commerce étaient en anglais. Dans les entreprises, ça se passait en anglais. C'était extrêmement difficile de vivre en français au Québec. Il y avait un mépris pour les francophones. On donne toujours l'exemple de la vieille dame chez Eaton, mais il reste que c'était ça la réalité. Bref.
Tout à fait, tout à fait. Puis la loi 101, contrairement à ce que plusieurs personnes soutiennent encore, à tort aujourd'hui, ce n'était pas une loi qui était seulement préoccupée par l'affichage ou l'enseignement ou la francisation des immigrants. Dans le livre blanc, on note que, oui, les immigrants s'intègrent au groupe minoritaire anglophone. Ça, c'est d'abord, ça, c'est une des notions qu'on observe déjà en 1977 et j'observe qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. 50% des allophones se choisissent l'anglais comme langue d'usage public. Et au collégial, il y a des études qui démontrent que la langue qui est parlée dans les cégeps et dans les universités a une grande influence sur la langue qu'on parle ensuite avec les amis, qu'on parle, que la langue même, il y a même une étude qui le prouve, la langue même qu'on va parler avec notre conjoint, donc la langue dans laquelle on va élever nos enfants et tout. Donc, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on note aussi dans le livre blanc? On note que l'anglais est la langue des affaires. Excuse-moi, là, mais les données de l'OQLF prouvent la même chose. Il y a une baisse du français. On parle de 13% du français comme langue d'accueil unique dans les commerces à Montréal. Une hausse de l'anglais, 5% sur 14 ans aussi. Qu'est-ce que le livre blanc nous dit? Il nous dit que la Confédération canadienne défavorise les francophones.
Ben,
écoute,
c'est
en fin
ce
de
que PSPP a dit il n'y a pas longtemps, puis il s'est fait tomber sur la tomate en disant que c'était épouvantable de dire ça.
Puis c'est ce que le dossier de cette fin de semaine a mis de l'avant également.
Absolument.
C'est le pauvre sort des francophones
au
Canada.
Les dead dogs dont parlait René Lévesque.
Le livre blanc dit autre chose. Il dit « Beaucoup de Québécois sont insatisfaits de la qualité de la langue française au Québec. » Je relisais un texte de notre ami Philippe Lorange tantôt. « Savais-tu, toi, que moins de la moitié des élèves au secondaire, en cinquième secondaire, réussissent l'examen en orthographe du ministère de l'enseignement supérieur, de ministère, l'examen du ministère en français. On note l'orthographe, moins de la moitié des élèves passent. Donc, le français n'est pas en santé aussi. Il y a toutes sortes de références comme ça qui nous font constater une chose, c'est que la loi 101, elle avait un bel esprit, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'héritier. Il y avait une mission qui était transmise. Cet homme-là est mort en 1999, là, je veux dire, il ne pouvait pas continuer de nous motiver. Mais il n'y a pas eu d'héritier, on n'a pas pris le relais. Et quand on nous dit à la CAQ que la loi 96 se veut la poursuite de la loi 101.
Mais elle a moins de vigueur.
Elle a moins de mordant.
C'est
rendu que M. Roberge, qui a pris la place de M. Jeanlin Barrette, dit ben, écoutez, on va faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire qu'on ne vérifiera pas si effectivement elle est respectée. On fait confiance aux Québécois. Hey, tabarnouche Camille Lorrain, je pense qu'il serait allé un petit peu plus loin que ça, je pense quand
c'est
même.
C'est la première fois que tu dis tabarnouche en onde. J'aime ça, ça te va bien.
C'est mieux qu'un autre mot qui est dans la même, de même nature.
Ah, voilà. Tous les termes religieux, pour moi, n'ont aucun. Il n'y a aucun sens du sacré. On s'en. Contre.
C'est vrai, t'as raison.
On
t'as
s'en
raison.
Contre Saint-Cyboirise.
Tu sais, Camille Lorrain, c'est un psychiatre.
Oui, absolument.
Tu savais ça? Et
ben
en 1976, quand le PQ a été élu.
Un petit jeune qui pense qu'il va m'avoir rendre des affaires sur la génération que moi j'ai connue. Hey, s'il vous plaît, Rémi Villemur.
C'est vrai, non, mais je m'adresse à tout le monde, évidemment.
Je te taquine.
Mais Camille Lorrain, c'est un psychiatre. Et en 1976, quand le PQ a pris le pouvoir, René Lévesque lui a donné le dossier de la langue et il lui a dit docteur, vous allez me corriger ça.
Ah.
Hein? Parce qu'il savait que la mission qui devait tendre à quelqu'un, c'était une mission de psychiatre. Et Camille Lorrain,
très
en 1998, un an avant de mourir, je vais le citer, regarde ce qu'il dit à propos de son mandat. Il dit « Je voulais que la loi s'inscrive dans l'histoire, en reprenne le fil pour réparer toutes les blessures, toutes les pertes subies. Je voulais une loi qui répare, qui redresse et qui redonne confiance. Hein, » on dirait un psychiatre qui parle avec son patient, là. « Qui redonne confiance, fierté et estime de soi un peuple qui tenait à sa langue, mais qui était devenu résigné. »
Ah, c'est formidable.
Hey,
très, très bon.
Il nous en manque des hommes pareils, hein? On est d'accord?
Des hommes ou des femmes, Rémi?
Bien sûr.
Mais non, il y a quand même eu des Louise Baudouin, puis il y en a eu d'autres.
Tout à fait.
Quand même, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche une figure qui incarnerait ça avec autant de bagou et autant de poésie. Peut-être un petit peu plus de charisme, ça...
Ouais, ben,
je sais pas combien il y aurait été sur la liste des 100 de l'actualité.
T'as noté ça, c'était pas fort quand même, le charisme.
Pas,
mais
bon.
C'est un psychiatre, il avait d'autres forces.
Il a d'autres forces. Dans le mental.
Oui.
Merci beaucoup, Rémi Villemur, étudiant
bye.
Au doctorat en sociologie et analyste de toutes sortes de choses ici à Cube.
À jeudi.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Jean-François Barry, tu es moyennement inquiet, un petit peu inquiet, très inquiet quand tu vois des textes qui nous disent que presque 10 % des jeunes de la province n'étaient pas sur les bancs d'école au début avril. Ça t'inquiète beaucoup ou pas du tout?
Non, ça m'inquiète, je dirais même plus que beaucoup.
Ouais.
Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ces jeunes-là ne sont pas en train d'apprendre. Ça, c'est la première des choses. Mais, et puis là, on est revenu, puis c'est un texte de la presse, une étude de la presse, on est revenu au niveau de la pandémie, quand on capotait parce que les jeunes n'allaient pas à l'école. Parce que c'est toujours ça. En fait, je pense que c'est ça qui me fait sourciller le plus, c'est que quand il y a une tempête, là, on voit toujours des parents dire « 2 pouces de neige, puis on annule l'école. Mes jeunes vont pas à l'école. » On l'a vu pendant la grève des professeurs,
ben oui.
On l'a entendu pendant la pandémie. « Mes enfants sont en train de prendre du retard. » Mais d'un autre côté, on les laisse décider des fois de pas aller à l'école. Ça n'a pas l'air de déranger, déranger les parents, de déranger la société. Moi, c'est ça qui me dérange. Puis dans le 10 % là, au mois d'avril qui n'étaient pas sur les bancs d'école, il y a sûrement des gens pour qui la raison, elle est bonne. Ils ont eu une maladie, ils ont eu un accident. Il va toujours en avoir de l'absence.
Ouais.
Mais il y en a aussi que c'est juste parce que ça leur tente pas. Puis là, les parents disent, mais je ne sais plus comment y dire d'aller à l'école, fait que je le laisse faire. Je dois être vraiment très vieux parce que moi, ma mère...
Elle t'aurait jamais accepté que tu dises ça.
Ben non, je serais allé
à l'école. Qu'est-ce que t'en penses?
Puis même, je me souviens une fois, tu sais, genre au secondaire, à un moment donné, tu suis tes amis, puis on appelait ça « l'offé ». On avait manqué une période l'après-midi. On appelait ça « l'offé ».
Nous, on appelait ça « foxé » quand on n'allait pas les cours. On dit ça comment aujourd'hui, Cybelle? Foxy? Ah oui, Cybelle a dit que moi, je suis plus tendance que toi.
Moi, je suis en région éloignée.
En région éloignée, c'est ça.
Mais la direction avait appelé nos parents.
Ben
on est revenus, puis nos parents ont su qu'on n'avait pas été à notre cours. Le lendemain, on est allé à nos cours. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a plus cette espèce d'autorité-là sur nos enfants?
On n'a plus aucune autorité. Parce que ces enfants-là ne se font jamais dire non. Parce qu'avant, on avait 14 enfants, fait que ça marchait à coups de petite taloche derrière la tête. Quand on a juste un, mais là, t'écoutes, ça devient... Il y en a un, puis tu lui donnes autant d'amour que 14 enfants réunis. Fait que c'est 14 fois trop d'amour. Ben, pas trop d'amour, mais tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Trop d'attention, trop de sécurité, trop d'investissement, trop d'implication. Alors, écoute, ils se font jamais dire non.
Fait que là, il y en a plein qui disent, ben moi, 4 jours semaine, c'est assez, ou je veux pas y aller les après-midi, ou tu sais, ils ont toutes sortes de... ce cours-là est plate, mais oui, OK, peut-être que ce cours-là est plate, mais tu vas y aller, ça fait partie de... Tu sais, moi, en fin de semaine, j'étais à Salut, bonjour, sais-tu quoi? J'ai trouvé ça plate de faire la route jusqu'à Québec pour aller faire Salut, bonjour. Mais c'est ça, la vie, tout
n'est
pas... C'est
toi qui l'animais en fin de semaine?
Non, je l'animais pas, j'étais juste chroniqueur.
Ah, OK.
Mais je veux dire, c'est ça la vie.
Eh oui, puis 5
c'est
ça, heures mon point, de route qu'est-ce... pour quoi, 10 minutes en onde?
Exactement. C'est qu'est-ce qu'on est en train de leur montrer. Ah, oh, t'aimes pas ça? C'est correct.
C'est ça. La loi du moindre effort.
Un peu avec le terme anxiété. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui font de l'anxiété. Puis je suis entièrement d'accord avec ça.
Ouais, il faut pas minimiser. Mélanger. Mais il ne faut pas exagérer non plus.
Oui, il ne faut pas mélanger, parce que là, il y en a qui disent, là, tu sais, bon, on a manqué des cours, j'ai peur de ne pas réussir mes examens, je fais de l'anxiété. Non, ben, ça, c'est un stress d'avant-examen. On a tous déjà vécu ça, là, être stressé, dire j'ai pas assez étudié, ou j'ai peur de couler, mal dormir, etc. Il y a une nuance entre être stressé puis être anxieux, parce que là, ça va être pareil un jour sur le marché du travail.
Et là, là.
Quand il va y avoir une présentation à faire, mettons, pour obtenir un contrat, Faut pas mélanger. Ouf, j'ai un stress. Je devrais me préparer plus. J'ai peur de pas réussir. Puis je fais de l'anxiété au point où je peux pas y aller. Puis fait que là, je trouve qu'on marche sur une ligne qui est très fine. Puis qu'on est en train de leur montrer que ça te tente pas, fais-le pas.
Ben moi, je dirais qu'on l'a franchi, la ligne.
Ouais,
toi, tu sembles dire qu'on est comme sur le petit bord. Moi, je pense qu'on est pas mal rendu de l'autre bord. Ce qui m'a frappé dans le même texte dont tu parles, Jean-François, c'est la question des voyages. Je pense que ça fait plusieurs fois que je t'en parle de voyages, de gens qui partent en voyage en plein milieu de l'année ou qui prennent, mettons, la semaine de relâche et mettons du 1er au 8, ben eux, ils vont prendre du 8 au 15 parce que, évidemment, c'est moins cher la semaine du 8 au 15, même si la 8 au 15, il y a de l'école. Puis là, ils disent, disent au prof, ben, t'as juste m'envoyer tes notes, comme ça mon enfant manquera rien. Et il y a une prof, il y a une prof qui est citée et qui dit qu'il y a beaucoup d'élèves qui retournent voir la famille à l'extérieur du pays en plein cœur de l'année scolaire parce que les billets sont moins chers. Et elle dit, il y a un jeune qui a des notes de 30% qui est parti une semaine dans le sud avec ses parents. Oui. Mais c'est parce que si tu as 30%, ta priorité, c'est pas de te faire griller la couenne, c'est de te faire griller les neurones à l'intérieur, là, voyons donc.
Oui, mais je veux pas blâmer le jeune, parce que c'est pas le jeune qui a payé le voyage dans le sud.
Non, non, c'est les parents.
Tu sais, je veux dire, c'est les parents qui font « Hey, t'as un mauvais bulletin ». Ouais, mais c'est pas grave, on va te faire manquer une semaine d'école, puis tu te rattraperas en revenant, parce que là, papa et maman ont besoin de soleil, puis je pense que ça va faire du bien à toute la famille, tu sais. C'est pour ça que je pense que ça part des parents. Je trouve qu'on est vraiment en train de leur montrer. Puis dans le même texte, là, il y a l'exemple d'un jeune qui est arrivé au mois d'octobre.
Ben oui.
Donc la famille était comme à l'extérieur du pays.
Ben oui.
Cette personne-là, ce jeune-là a manqué les premières semaines du calendrier scolaire. Puis
ben oui, mais c'est comme ça dans son pays d'origine. Fait que pourquoi?
C'est pas grave.
Mais tout ça part de la même chose, mon beau Jean-François. C'est un manque d'autorité, premièrement, un manque de respect de l'autorité. Puis l'école, qu'on le veuille ou non, c'est une forme d'autorité, une forme d'encadrement. Et c'est aussi un manque de considération totale pour l'éducation, le dépassement de soi, pour la volonté, pour l'ambition. L'ambition est devenue quelque chose qui, avant, était positif. Maintenant, c'est devenu dérogatoire. T'es donc ben ambitieux, toi. Tu parles donc ben, c'est quoi? Tu penses que t'es meilleur que les autres? T'es-tu dis donc ben, tu penses que t'es meilleur que les autres? On dévalorise donc, l'éducation, on dévalorise l'excellence, on dévalorise le dépassement de soi. Bref.
Donc, on n'est pas en train d'apprécier l'éducation parce que c'est une chance quand même qu'on a d'avoir, même s'il est parfois croche, là. D'avoir un système qui nous éduque, parce que c'est après ça, c'est une ouverture sur le monde, c'est d'être capable de comprendre
et qui est théoriquement gratuit. Ouais.
Ensuite de ça, c'est un non-respect de l'autorité, parce que là, on est en train de montrer que plus tard, là, n'importe quoi, ton patron, les policiers, pas besoin de respecter ça, l'autorité, c'est pas important, les politiciens, c'est pas important. C'est ça qu'on est en train de leur montrer. Puis après ça, si c'est difficile ou si ça te tente pas, parce que il y a deux cours fun dans ma journée, mais deux cours pas le fun, fait que je vais tirer mon dîner, m'a manqué ma troisième période, parce que celui-là, je le trouve plate, il est long, le professeur est pas intéressant. Oui, ça, pour vrai, ça se peut, mais tu vas y aller quand même. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'école ne pourrait pas s'améliorer, parce qu'on en parle un peu dans l'article, là, chez tel jeune, c'est quelque chose qui revient de la part des jeunes, qu'ils ne se sentent pas interpellés par l'école. Puis c'est drôle, en fin de semaine, j'ai soupé avec un paquet de jeunes, puis il y avait des jeunes du secondaire là-dessus qui disaient, on peut-tu parler, peuvent-tu nous parler d'affaires, tu sais, mettons en histoire, parler du crash économique, parler de quand on est allé sur dans l'espace, ça fait quand même partie de l'histoire. Tu sais, à un moment donné, l'exemple qu'ils nous ont donné, c'est comment ils construisaient les maisons longues, les Iroquois, quand ils étaient au Québec. Ça fait 4 ans de suite qu'on voit ça dans le programme.
Je comprends que
l'école pourrait quand même essayer de se réinventer pour intéresser les jeunes d'aujourd'hui.
Ouais, mais bon, ça c'est un vaste débat qu'on fera pas tout de suite, mais on pourrait y revenir. Mais tu sais que si on arrête d'enseigner les maisons longues des Iroquois, je connais un lobby qui ne sera pas content.
Ah, mais je ne dis pas d'arrêter. Aussi.
Non, mais je veux dire, si on en parle moins.
On l'a vu 4 années de suite.
Oui, mais il faut décolonialiser l'enseignement de l'histoire, Jean-François. Voyons, tu n'es pas assez woke.
Probablement.
Voilà. Donc,
je passais bien des affaires. Je me rends compte que je suis rendu vieux parce que je te dis que moi, si l'école appelait pour dire que mes enfants avaient manqué une période, en fait, ils se sont même pas essayés de manquer une période parce qu'ils savaient que c'était pas négociable. Fait que je dois être vraiment vieux jeu dans ma façon de faire.
Arrête donc, parce qu'à chaque fois que toi tu dis que t'es vieux, moi je me sens encore plus vieille, mais je suis plus vieille que toi. Fait que changeons donc de sujet. Merci beaucoup, mon jeune Jean-François. À très bientôt.
Mais merci, ma jeune Sophie. Et les voilà, jeunes, allez à l'école.
Oh oui, exactement.
C'est votre job.
Merci.
Bye.
Sophie Durocher.
Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
Bon, alors on vous l'a annoncé dès le début de l'émission. Un gros dossier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du fameux « Bonjour, hi ». Juste entendre ça, ça me donne de l'urticaire. Je me gratte. Quand j'entends ça, bonjour, hi, ça me fait mal au cœur. Donc, il y a cette étude de l'Office québécois de la langue française qui montre qu'il y a moins en moins de commerçants qui accueillent exclusivement leurs clients en français. Et l'usage du bonjour, hi, lui, est en train de monter, d'augmenter de façon fulgurante. On va en parler avec Jean-Paul Perrault, qui est président d'Impératif français. Monsieur Perrault, bonjour.
Bonjour, Mme Durocher. Vous allez bien?
Moi, je vais très bien. Est-ce que ça vous donne de l'urticaire, vous aussi, Monsieur Perrault?
Écoutez, c'est tout à fait ridicule, toute cette affaire-là. Vous savez, de toute évidence, mais au Québec, nous n'avons pas à demander le service en français. Ça, c'est une vision de minoritaire. Je peux comprendre ça en Ontario ou ailleurs au Canada. Mais ici, la société québécoise, sa langue commune de la diversité, c'est le français. Tout le monde doit parler français, sinon on l'apprend. Donc, l'accueil, on n'a pas à demander, quand on va dans un établissement, d'avoir le service en français. Il doit être là sans avoir à le demander. Donc, c'est normal qu'on reconnaisse ce droit aux clients, aux consommateurs, d'être servi en français. Mais dans la réalité, ce droit-là, on n'aurait pas à l'exercer si la normalité était là. La normalité, c'est qu'au Québec, comme ailleurs dans le monde, en Italie, en Grèce, en Turquie, nommez les endroits, au Mexique, vous êtes reçu dans la langue nationale. Ici, tout d'un coup, on arrive avec une connerie, une imbécilité du bonjour hi, et de voir qu'il y a des gens d'affaires qui adhèrent à une vision comme celle-là, alors que le mot bonjour est tellement agréable, tellement
oui.
beau, tellement puis plus
compris.
Chaud.
Ben oui, puis compris à travers le monde. Voyons, il y a même dans le fin fond de je sais pas, en Asie, les gens disent « chercher la femme » et puis ils disent « bonjour ». Je veux dire, ils savent que c'est comme ça qu'on dit ça ici en quand on parle français, « bonjour ». C'est pas comme si c'était un mot extrêmement compliqué, là.
Madame Durocher, c'est la mentalité colonisée qui existe encore. C'est regrettable à le dire. C'est pas facile de dire ça ou l'autre. Mais il va bien falloir un jour arrêter de quêter et demander d'être reçu, servi et travailler en français au Québec. Ce doit être là en tout temps. Que l'on y reconnaisse dans les droits fondamentaux, je veux bien. Mais même l'Office québécois et le gouvernement du Québec sont responsables de cette situation-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Perrault? Pourquoi ils sont responsables?
Quand ils ont sorti de la notion « droit de service en français » pour traiter l'accueil, la langue d'accueil différemment, et ce n'est pas dans les droits fondamentaux, la langue d'accueil. Donc, le commerçant, l'établissement peut recevoir le client en anglais. On met le fardeau sur le client, l'usager, pour qu'il demande le service en français. La loi devrait être très claire. L'accueil doit se faire en français au Québec.
Sinon quoi? Des amendes, M. Perrault?
Sinon, des amendes, c'est pas difficile pour l'Office de dire « reçoit une plainte, le client n'a pas été reçu et servi en français ». Alors, l'Office, elle envoie un de ses inspecteurs pour voir si lui ou si elle vit exactement le même problème et en prend note et dépose à ce moment-là, écrivent une intervention au plaid du commerce. Et si ça ne se corrige pas, ils retournent vérifier quelques semaines ou quelques mois après et on les met à l'amende. C'est pas compliqué, là.
Non, mais en même temps. Oui, excusez-moi, Monsieur Perrault, parce que je trouve que c'est important de le dire pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être pas lu au complet l'étude de l'OQLF, c'est que oui, en effet, on est passé de 84% de l'accueil en français uniquement à 71%, mais il reste que les chiffres de l'OQLF montrent qu'en dans plus de 90% des cas, une fois passé ce bonjour hi, quand le client demande à ce que le service se fasse en français, il l'obtient. Bon, vous aimez pas, évidemment, et je vous comprends, qu'on ait à le demander, mais il reste qu'il est disponible et il est là, ce service en français. Donc, est-ce qu'il y a des gens, comme André Pratt, par exemple, qui disent un petit peu, en gros, hein, là, je schématise, qu'on crie au loup, qu'on se plaint pour rien. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là, comme M. Pratt ou des collègues à moi, à la Gazette ou à CJD?
Le point de vue de M. Pratt, aussi intéressant soit-il, ne nous surprend pas. Hein? M. Pratt, quand même, il est assez connu comme étant quelqu'un qui a une vision canadienne, donc une vision des lois, de la langue sur les lois, la loi sur les langues officielles du gouvernement fédéral, qui anglicise le Québec. Mais le Québec a une loi qui dit que la seule langue officielle, la seule langue commune sur le territoire du Québec, c'est le français. Donc, tout le monde doit parler français, incluant même ceux qui ne le parlent pas. Puis j'ajouterai en passant, Madame Durocher, je vous dirais ceci, les cours de français, ils s'en donnent, et même virtuellement. Donc, il n'y a plus d'excuses.
Il n'y a plus d'excuses.
On ne peut pas parler français si ce n'est que de choisir politiquement, comme certains le font, de refuser de vivre en harmonie avec la langue commune et la langue officielle du Québec et qui continuent, même s'ils connaissent le français, à imposer l'anglais partout. Et ils existent, ces gens-là. Il faut venir en Outaouais, il faut bien également à Montréal, ces deux régions-là où l'anglicisation, la défrancisation est galopante. Là. Moi, vous savez, je dis à M. Robert, puis je dis à l'Office québécois de la langue française, cette notion de vouloir nous amener à demander le service en français, écoutez-moi bien là, ça c'est une vision de minoritaire, c'est une vision colonisée au Québec. Prenez les moyens qui s'imposent pour que l'ensemble du service, incluant l'accueil, ne l'isolez pas, là, ne le traitez pas différemment.
Je comprends.
Pour permettre... Vous comprenez?
Alors, oui, je comprends.
Les choses, ils sont responsables. Monsieur Robert, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Tout le monde doit parler français au Québec. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Oui, sauf alors c'est intéressant. C'est intéressant, Monsieur Perrault, parce que ben, ça vient de sortir là il y a quelque temps. Puis évidemment, parce que je suis un peu tête en l'air, je vais le chercher. Bon, là, je l'ai trouvé. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, avait fait une petite visite ici sur la rue Sainte-Catherine, puis s'était adressée en anglais à un commerçant qui peinait à parler français. Donc, toujours est-il que Valérie Plante a réagi à cette étude de l'OQLF, et elle dit qu'il est tout à fait inutile d'ajouter « hi » après avoir dit « bonjour », que c'est pas nécessaire à Montréal. Et elle se dit préoccupée par l'augmentation de cette formulation dans les artères commerciales de la métropole. Est-ce que vous la croyez? Vous pensez qu'elle est sincère dans son inquiétude, M. Perrault?
Je ne voudrais pas commenter sur sa sincérité. Je vais rester sur son commentaire.
Ouais.
Son commentaire, c'est un commentaire, comment dirais-je, donc, flottant, là, un peu dans le vide. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce que la Ville de Montréal va faire concrètement auprès de ses contribuables, payeurs de taxes, établissements commerciaux, pour s'assurer que le bon sens, c'est même pas la loi, là, c'est le bon sens, l'accueil, puisqu'ils l'ont divisé, et le service, doivent être en temps partout, sans exception en français. Et de voir qu'on en est rendu à vouloir nous implanter une vision de minoritaire où il va falloir quémander le service en français, ben là, ça va pas, là. C'est une vision qui n'a pas sa place au Québec, le Québec français. Cette vision-là n'a pas sa place. Et elle est même blessante de la part de l'Office, et elle est blessante de la part du gouvernement du Québec. D'en arriver à créer une situation et encourager même l'existence de cette situation-là, où le Québec, où les Québécois au Québec auront à demander le service dans la langue nationale du Québec. C'est de la foutaise, ça. C'est vraiment incroyable. On a colonisé les cerveaux au point tel où on nous relance ce que le fédéral veut sur un territoire qui s'appelle le Québec, qui n'a qu'une seule langue commune et qu'une seule langue officielle et qu'une seule langue de travail. Gouvernement, réveillez-vous. Office,
absolument,
s'il vous plaît.
Absolument. J'aime beaucoup votre expression « coloniser ». On a colonisé les cerveaux. Je vais vous l'emprunter, mais je vous verserai des droits d'auteur, Monsieur Perrault, sans faute. En terminant, il me reste 30 secondes. J'ai besoin de votre aide. Je l'ai raconté dans une de mes chroniques au club sportif que je fréquente. Lors d'un cours de yoga, pilates, peu importe, la professeure donnait beaucoup de ses indications en anglais. Je lui ai demandé très gentiment de donner ses indications en français. Et il y a une élève anglophone, une cliente anglophone qui m'a dit « Learn English ». Aidez-moi à répondre à cette dame-là. Qu'est-ce que je lui réponds, Monsieur Perrault? Moi, j'aurais une possibilité. Ça commence par un F, ça finit par un U, puis ça sonne comme un animal. Je pense que c'est le phoque, hein? P-H-O-Q-E. Qu'est-ce que vous diriez de ça?
Hein? C'est de l'impérialisme. On voit bien encore là, que la colonisation des cerveaux anglophones les amène à croire qu'ils ont droit à des services de qualité supérieure, différents et davantage de services. Et ça se voit à l'échelle planétaire, cette vacherie-là. Mais la diversité culturelle mondiale, madame, la diversité culturelle mondiale, encore faut-il la respecter. En Italie,
absolument,
c'est en italien. Au Portugal, c'est en portugais. Et au Québec, c'est en français. C'est tout est dit,
non,
là.
Au Québec, c'est en bilingue parce que c'est un pays bilingue, parce que c'est le Canada. La dame m'a même dit « Look at your passport, it says Canada, doesn't it? » En tout cas, je vais décrinquer à un moment donné.
C'est la vision canadienne.
Et
c'est
voilà.
La vision canadienne des deux langues officielles. Alors, elle se dit « J'ai droit au service en anglais.
Ouais. »
Elle le dit, elle se dit canadienne. Cette vision-là est une vision qui anglicise et défrancise et qui est totalement irresponsable.
Elle défrancise. Ça aussi, je vais vous l'emprunter, M. Perrault. Ça fait deux emprunts que je vous fais aujourd'hui. Vous en faites pas. Vous allez recevoir votre chèque de droit d'auteur par la poste. Merci
vous allez
beaucoup.
Être embêté, là, vous. Vous allez m'en avoir beaucoup.
Ça va me coûter cher. Merci beaucoup, Jean-Paul Perrault. Vous êtes président d'Impératif français. Merci, c'était très intéressant. Au revoir.
Ça a été agréable. Merci à vous également. Au revoir, madame Durocher.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
On va parler maintenant de solo-parentalité. Alors attention, ça n'est pas la monoparentalité. Monoparentalité, c'est quand vous êtes parent avec quelqu'un d'autre et que le quelqu'un d'autre n'est plus dans le portrait, vous vous retrouvez à élever les enfants seuls. Ça n'est pas ça, la solo-parentalité, c'est quand on fait le choix d'avoir des enfants seuls. Il y a un livre qui vient de sortir de Geneviève Breton qui s'intitule « Solo, faire le choix de la solo-parentalité ». Vous vous en doutez, elle-même est mère solo-parentale. Geneviève Breton, bonjour.
Bonjour Sophie, ça va bien?
Moi, ça va très bien. Ben, d'abord, je vous trouve courageuse Geneviève. Je vous explique pourquoi. Avoir un enfant, c'est de la job, c'est du travail, c'est fatigant. Les nuits, c'est difficile. Après ça, c'est les dents. Après ça, c'est l'âge de 2 ans du nom. Alors, on est deux, puis on aimerait être 4 des fois pour en élever un. Là, vous avez fait le choix de le faire tout seul. Pourquoi?
Oui, puis c'est drôle que vous parliez des nuits parce que j'ai une grosse régression. Ben, pas moi, ma fille, une grosse régression de sommeil en ce moment. C'est assez difficile, effectivement, de faire ça toute seule. Mais moi, dans le fond, je pouvais juste pas imaginer ma vie sans être maman. Pour moi, c'était inconcevable de pas être maman. Puis, je suis arrivée à un point dans ma vie où j'avais beaucoup expérimenté le dating. Ça donnait pas grand-chose de concluant. J'ai eu des relations, mais qui ont pas mené à ça. Puis moi, dans le fond, j'ai réalisé que finalement, je continuais à dater pour trouver un géniteur, finalement.
Ouais.
Parce que je me demandais si la personne allait être un bon père, des choses comme ça, et non s'il allait être un bon partenaire. Puis je suis quelqu'un qui est très bien seul. Donc, j'ai eu cette réflexion-là. Puis quand je suis allée faire les tests de fertilité en clinique de fertilité, ça m'a confirmé, en fait, que je faisais la bonne chose parce que le médecin me dit, écoute, il faut que tu te fasses inséminer dans la prochaine année. Il te reste presque plus d'ovules. J'avais 32 ans quand je me suis fait dire ça.
Donc, l'horloge biologique faisait tic-toc, tic-toc, tic-toc. J'ai feuilleté votre livre et il y a quelque chose qui me frappe, c'est à quel point les gens portent des jugements sur les gens qui sont chefs de famille solo parental. C'est quoi le plus gros jugement ou le plus gros préjugé ou le plus gros stéréotype que les gens ont envers vous et les gens qui ont fait le même choix que vous?
Ben moi, je suis chanceuse dans mon entourage, j'en entends pas vraiment, mais ce que j'ai entendu qui revient souvent, c'est un enfant, ça a absolument besoin d'un père. Puis non seulement ça vient me chercher pour moi et toutes les autres mamans solo, mais aussi pour tous les couples homo parentaux. Là. Des fois, un enfant, ça a deux mamans, des fois, un enfant, ça a deux papas, puis faut pas oublier que, tu sais, vous avez parlé des familles monoparentales tout à l'heure. Faut pas oublier que des fois, un enfant, ça a pas de papa, mais c'est parce que le papa l'a abandonné aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'est ce qui revient le plus souvent. Là. Un enfant, ça a absolument besoin d'un père.
D'accord. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète qu'à un moment donné, votre fille plus vieille dise « Maman, y est où papa? »
Ben c'est sûr que oui.
C'est une question
mais
que je pose
temps,
sans
moi...
jugement. Hein? Je vais juste évoquer la possibilité avec vous, là.
Oui, puis c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est une question qu'on se pose, mais c'est sûr et certain que moi, je veux aborder ça dans l'honnêteté. Là, moi, ma fille, on a déjà des livres qui parlent de solo-parentalité dans la
Ah
bibliothèque. On
oui.
s'entend, elle a 20 mois, elle comprend un peu, là. Mais c'est sûr et certain que dès qu'elle va poser des questions, elle va savoir. Puis qu'est-ce qui m'avait vraiment rassurée dans le processus, c'est qu'on rencontre une psychologue en clinique de fertilité. Puis la
D'accord.
psychologue, elle m'avait dit que les études démontraient que les enfants issus de la solo-parentalité étaient très, très, très heureux. Parce qu'il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de blessure d'abandon, tu sais, il avait vraiment été choisi, il était vraiment aimé. Donc, moi, c'est ça qui m'a beaucoup rassurée à ce niveau-là.
Je comprends tout à fait. Donc, vous sortez ce livre, Solo, faire le choix de la solo parentalité, mais en même temps, vous êtes déjà depuis plusieurs mois une sorte d'influenceuse de la parentalité, parce que sur les médias sociaux, vous êtes très présente. Et est-ce que le livre, vous le faites pour dire aux gens, allez-y, vous allez voir, c'est formidable, ou simplement pour mettre à disposition toutes les informations pour que les gens puissent faire un choix éclairé. C'est quoi votre but avec le livre?
Oui, c'est plus la deuxième option. En fait, j'ai deux buts avec le livre. Le premier, c'est justement donner les informations. Moi, c'est vraiment un genre de livre que j'aurais aimé avoir à ma disposition quand j'ai pris cette décision-là. Je trouvais que ça manquait. Je savais pas où aller chercher les infos outre des groupes Facebook. Puis la deuxième raison, c'est pour aussi normaliser cette avenue-là, normaliser aussi tous les types de familles. C'est sûr que mon livre aborde la solo-parentalité, mais je mentionne à plusieurs reprises dans le livre les autres types de familles. Justement, j'en parlais tantôt, homoparentales, etc., les familles recomposées aussi. Faut s'enlever de la tête le fameux American Dream, là, qu'il faut se marier, avoir des enfants, un chien, une maison, puis jamais se séparer. Donc moi, c'est un peu ça aussi, là. Je veux que les gens en parlent plus. Puis des fois, il y a des gens qui m'écrivent puis qui me disent « Hey, merci d'en parler parce que c'est une avenue que je savais pas qui existait nécessairement ou qui était si commune parce que tu sais ça devient de plus en plus commun. Donc les gens, c'est pas pour les influencer ou pour les encourager à faire ça, mais c'est plus pour qu'ils sachent qu'il y a cette avenue-là. Puis ça m'est déjà arrivé d'avoir des témoignages de personnes très jeunes, dans la vingtaine, qui me disaient ça m'enlève de la pression de savoir que dans quelques années j'ai cette possibilité-là, si jamais.
D'accord. En même temps, l'horloge biologique, elle roule pour tout le monde. Donc, il faut se dépêcher avant qu'il soit trop tard. À un moment donné, je suis tombée sur un passage dans votre texte où vous parlez du cododo. Pour ceux qui ne savent pas, le cododo, c'est quand on dort avec le bébé dans le lit avec nous. Oh, le petit minou! Oh, le gentil
Oui.
petit chat!
Il s'invite souvent dans les rencontres.
Ah, oh, ben, j'adore ça. J'adore ça. qu'est-ce que j'allais dire? Mon Dieu, vous m'avez fait perdre mes moyens. Voilà, oui, c'est ça. Le cododo. Et là, vous dites à un moment donné que c'est beaucoup plus sécuritaire quand on fait du cododo, quand on est solo parental, parce que très souvent, dans les cas où il y a des enfants qui ont été soit blessés ou carrément qui sont morts dans le cododo, c'était des cas où le papa avait roulé sur l'enfant. Vous n'avez pas peur un petit peu de vous faire attaquer à cause de ce genre de propos-là? Parce que dans le fond, ça peut aussi arriver, j'imagine, qu'une mère... Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un petit peu...
Oui.
Ça pourrait
Oui,
être mal interprété, là.
Ça avait été discuté d'ailleurs avec mon éditrice, ce passage-là, dans le fond, parce
Ah!
qu'on n'avait pas nécessairement de source, mais c'était une... Est-ce que la connexion est encore...
Oui, je suis là, je suis là.
OK,
Oui.
je vous vois plus. dans le fond, c'était quelque chose qu'une infirmière m'avait dit.
Ah,
Donc, on le
d'accord.
précise dans le livre, on dit
Oui.
selon les dires de l'infirmière. Tu sais, on prétend pas que c'est une vérité, on prétend pas que ça
D'accord.
vient d'une recherche, on prétend pas non plus que c'est mon avis. On dit que c'est selon les dires d'une infirmière, mais c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu rassurée parce que c'est sûr que dans les faits, comme j'étais toute seule dans mon lit, je faisais une place à ma fille, je m'assurais qu'il y ait de quoi pour pas qu'elle tombe, puis j'avais moins peur, mais je me réveillais quand même en sursaut des fois parce que j'avais peur de l'écraser, là.
Je comprends tout à fait. Ben écoutez, c'est un livre intéressant, en tout cas pour ceux qui pensent éventuellement à cette possibilité. Puis ça fait rentrer un nouveau mot aussi dans notre vocabulaire, en plus de la monoparentalité, la soloparentalité. C'est un autre choc que vous avez derrière, coudonc, c'est une famille c'est au complet que vous avez. C'est le même, c'est non, juste qu'il y a une drôle de queue, c'est pour ça que je ne le reconnaissais pas.
Oui. Oui, c'est parce que je l'ai fait raser récemment, parce que ça, c'est une chose. Hein. Quand on est maman solo, on choisit nos combats, puis le ménage, là, moi, j'ai une femme de ménage, je fais raser le chat, je me facilite la vie le plus possible.
Ben oui, c'est sûr, parce que vous n'avez pas une autre paire de mains qui peut faire le lavage pendant que vous vous allaitez. C'est sûr que c'est plus un petit peu plus compliqué quand même. Geneviève Breton, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Merci.
Merci.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Donc, ben, chose promise, chose due, Nick Payne, qui est analyste politique, va réagir à l'entrevue tout à l'heure avec Jean-Pierre Perrault de la, hein, d'Impératif français. Es-tu en travaux chez toi?
Oui, oui, ben moi je fais comme la ministre Duranceau, hein, je fais des flips, alors je suis en train de flipper. Non, c'est pas vrai, c'est pas... Je voudrais que je te montre mes boutons.
Montre-moi tes boutons. Ah, oui, des belles chaussettes avec la semelle rouge. Donc, quand Monsieur Perrault d'Impératif français, à propos des chiffres de l'OQLF sur le Bonjour High, dit qu'on a colonisé les cerveaux, comment tu réagis à ça, Nick?
Ben, c'est d'autant plus judicieux comme observation que tout ça arrive au moment où le Journal de Montréal nous présentait ce dossier, hein, avec les nombreux jeunes dans les écoles francophones qui se parlent, les écoles françaises qui se parlent entre eux en anglais. Alors ça, oui. Mais ce qu'il a dit aussi, Monsieur Perrault, c'est que il dit on veut nous installer dans un statut de minoritaire, hein, le minoritaire qui a besoin de demander un accommodement linguistique.
Quémandeur.
C'est très judicieux comme observation. Je pense la même chose. Et quand on voit André Pratt et les autres, ils sont quand même relativement nombreux, dire « Non, non, regardez, tout va bien, puisque quand on fait des pieds et des mains, on finit toujours par trouver quelqu'un pour nous parler français dans un commerce. » Ben là, écoute, c'est la gestion des attentes ici. Clairement, ces gens-là n'ont pas les mêmes attentes que moi. Moi, je m'attends à ce que ça fonctionne en français tout court. Mais ce qui est intéressant dans cette dernière étude aussi d'OQLF, c'est qu'elle semble entrer en contradiction avec celle dont on parlait il y a une quinzaine de jours à peine. Elle qui disait que dans la langue d'usage public, le français va encore très bien. Y a-t-il contradiction entre ces deux études? Donc, la plus récente, elle, au contraire, nous montre que le français est en chute. Écoute, en termes statistiques, là, de 84 à 71 % en une douzaine d'années, c'est une chute libre. C'est une véritable hécatombe. Et l'anglais progresse, hein, lui, de 5 points pendant ce temps-là. C'est aussi une très forte hausse. Et donc, est-ce que c'est contradictoire? Moi, je pense que pas nécessairement. Quels que soient les bémols sur la méthodologie qu'on a pu avoir là sur l'autre étude, il reste que nous sommes probablement en ce moment à la rencontre de deux courbes historiques, là. T'as le fait que, effectivement, il y a probablement plus de gens que jamais qui sont capables de parler minimalement français dans l'espace public au Québec. Ça, si tu veux, c'est le fruit des luttes passées. On atteint une sorte de sommet là-dedans. Peut-être aussi à cause de l'immigration francophone, hein, qui ajoute des francophones. Elle n'ajoute pas des Québécois culturellement, mais elle ajoute au moins des francophones dans notre espace public. Mais en même temps, parallèlement à ça, il y a une autre courbe qui passe, elle, qui est la courbe de l'effondrement du français comme langue commune. Et c'est possible que les deux phénomènes se produisent en même temps, et c'est ce à quoi on assiste en ce moment. Donc, évidemment, les prates de ce monde nous invitent à ne surtout pas regarder la courbe de fond pour juste regarder la courbe de surface. Mais ce qui est derrière ça, et puis là, l'étude actuelle est très, très parlante, c'est un effondrement. Puis moi, je suis de ceux qui pensent que les études, même les plus sérieuses, les plus étoffées, nous montrent le résultat de ce qui s'est passé dans les dernières années, mais ne sont même pas à jour au moment où on parle maintenant. Et je pense que la situation est encore plus grave qu'on ne le croit. Je pense que Montréal, tu sais, on parle souvent d'assimilation, là. Moi, j'en parle beaucoup. Je pense que, au minimum, nous sommes entrés dans une assimilation sectorielle. On perd Montréal. Le reste du Québec va peut-être rester francophone majoritairement un bout de temps. C'est évident que c'est pas demain que ça, que ça arrive. Mais à Montréal, je pense que le point de bascule a été franchi. T'attends. Et ouais. qu'on réagit très, très mollement collectivement à ça, malheureusement.
Alors, tu vois, ma collègue Yasmine Abdel-Fadel, tout à l'heure, parlait de Montréal et du Bonjour Hi avec Alexandre Morinville-Ouellet, et elle disait, ben écoute, on est quand même une ville où il y a énormément de tourisme, et peut-être que c'est par gentillesse aussi pour accueillir les touristes. Ah. Donc, je veux quand même dire, pour alimenter le débat, bien sûr, que Valérie Plante, qui a dit, c'est inacceptable le Hi après le Bonjour, elle dit, et j'ouvre les guillemets, le Bonjour, il faut se l'approprier en disant à Montréal, ville internationale avec plein de touristes, plein de gens qui viennent de partout à travers le monde, on leur dit bonjour. C'est super important et tout le monde nous dit que c'est beau de dire bonjour. Et je dirais aussi, mon très cher Nick, Paris, c'est toujours l'exemple que je donne, la oui. ville avec le plus grand nombre de touristes au monde, je pense que c'est 4 millions de touristes par année, mais oui. je n'ai jamais entendu bonjour hi à Paris. Oh, pourtant, c'est rempli de gens qui parlent anglais. Je n'ai Évidemment. Jamais... entendu dans une boulangerie quelqu'un qui m'accueille avec un bonjour hi, jamais, jamais, de chez jamais. Oui,
oui. Alors, pourquoi ça existe? Pourquoi ça arrive, ça, à Montréal? Moi, j'ai une idée là-dessus. Ça arrive pour deux raisons. T'as ceux
oh
qui sont...
Oh boy, t'en auras le temps pour une seulement.
Une, OK. Ben deux choses. T'as les anglophones qui font une déclaration politique avec ça, hein, qui veulent nous démontrer que le français n'est plus la langue commune. Et t'as beaucoup de franco qui font ça parce qu'ils pensent qu'ils montrent de l'ouverture.
De l'ouverture et de la bienveillance. Ben oui, voilà. C'est ça.
La colonisation.
Et voilà, on a colonisé les cerveaux. C'était très bien dit de la part de Monsieur Perrault d'Impératif Français. Merci Nick, merci à tout le monde. On se retrouve demain et non pas tomorrow. Demain. Kid.